Une femme, c'est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Ça a été créé en 2010, c'est assez récent. Et c'est un résultat du processus qui a été mis en place pour renforcer la cohérence du système des Nations Unies. On parle beaucoup de réformes depuis hier, on parle beaucoup des réformes du Conseil de sécurité, mais ça, c'est une réforme qui a réussi. Et je pense qu'il faut le souligner pour être positif. Ils ont réussi à s'entendre pour créer cette nouvelle organisation. Et en fait, c'est la fusion de 4 entités qui existaient déjà, qui œuvraient dans le domaine. Ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi. Ça a pris 5 ans de négociations. Et ils ont créé ONUFEM, qui est une organisation qu'on appelle hybride, parce qu'elle fait à la fois du travail normatif et des activités opérationnelles. Donc, elle a des programmes dans les différents pays. Ici, je vous ai mis ces domaines, ces priorités. Donc, on voit que c'est assez large. Ça va de la vie politique à l'autonomisation économique, mettre fin à la violence des femmes, aussi toute la question des femmes, la paix et la sécurité, donc l'implication des femmes dans les processus de paix, action humanitaire, gouvernance, développement durable, VIH, SIDA. Donc, c'est quand même assez large. C'est une organisation qui est dirigée par une secrétaire générale adjointe, qui est aussi sa directrice exécutive. Et puis à date, il y en a eu 2. La première, c'est Michelle Bachelet, qui a eu le temps, entre ses 2 mandats de présidence au Chili, d'être à la tête de la nouvelle organisation. Donc, c'était la première. Elle a été là de septembre 2010 à mars 2013, où elle a décidé de retourner en politique au Chili. Elle a été remplacée par Pumzile Lambo-Kuka, qui, elle, a été vice-présidente en Afrique du Sud et a aussi été ministre au niveau des ressources minières et de l'énergie. Donc, elle est là depuis août 2013. Dès sa création, c'était clair qu'elle allait avoir des grands défis pour une femme. Parce que, pensez-y, on est en 2010. On crée une nouvelle organisation et on demande aux États membres de la financer, de lui donner du financement. Mais la plupart de ces pays qui donnent de l'argent sont en pleine crise financière. Donc déjà, ça va être un défi pour cette organisation-là. Ensuite, on fusionne. Donc oui, très bien, on s'est entendu pour faire une réforme. Mais on fusionne 4 entités qui ont déjà des cultures institutionnelles différentes. Qui font déjà, certaines de ces entités étaient plus militantes, féministes. Donc ça crée aussi des problèmes de fusionner ces 4 entités, de créer cette nouvelle organisation. Quand on parle des Nations Unies aussi, on l'a mentionné hier, on l'a mentionné aujourd'hui, il y a aussi la compétition, le turf battles entre les différents fonds et programmes. Il y a beaucoup de besoins, il y a peu de ressources. Toutes les agences, les fonds, veulent avoir du financement. Et là, on crée une nouvelle agence, on crée une nouvelle organisation qui, elle aussi, veut trouver sa place et aller chercher du financement auprès des pays qui contribuent. Donc, dans l'organisation, on s'est rendu compte très rapidement que la fenêtre pour, s'établir comme un joueur sur la scène mondiale en tant qu'organisation, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de compétition entre les différents fonds et programmes pour avoir du financement, puis ça allait être très difficile. Cette fenêtre-là, elle allait être très petite. On est en 2010. Et là, on est en 2010. Donc, qu'est-ce que l'UFAM a fait? Au début, c'était à propos de construire son image. La nomination de Michelle Bachelet a été un élément clé. Michelle Bachelet, et c'est pas moi qui le dis, mais elle a été vue comme une rockstar quand elle est arrivée. Elle a les contacts politiques, elle avait les contacts aussi au niveau du milieu des affaires. Si on va aller chercher de l'argent, ça c'est crucial pour faire des partenariats. Mais ça fait qu'elle a pris beaucoup de place et d'autres voix qui avaient milité, des voix féministes qui avaient milité pour la création de cet organisme-là, ont été mis un petit peu de côté et ça, ça a créé des tensions. Elle a beaucoup, beaucoup voyagé, Michelle Bachelet, pour faire la promotion. Donc, elle a été très, très peu présente la première année de la création de cet organisme-là. Et quand on met en place une organisation et que la personne qui la dirige n'est pas là, ça crée aussi des problèmes. Et il y a eu ce problème que ONUFEM et Michelle Bachelet, c'est devenu un peu la même chose. Et les gens commençaient à se dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver si elle quitte? Et on savait déjà qu'elle avait fait des ambitions de retourner en politique au Chili. Donc, on s'est posé la question, elle est partie en mars 2013, on a encore l'organisation. Et en fait, ONUFEM a eu de la chance, parce qu'en 2013, il y a une petite campagne publicitaire qui a été faite, et vous la voyez ici. Et donc, l'agence de publicité a eu une idée brillante. Ils sont allés dans Google et ils ont mis les mots « Women should ». Et ça, c'est les vrais résultats qui sont sortis. Donc, women should stay at home, women should be slaves, women should be in the kitchen. Et ça, c'est des vrais résultats. Donc, ils ont pris ces résultats-là, ils les ont mis sur les bouches de différentes femmes. Et cette publicité-là est devenue virale. On en a beaucoup parlé. La publicité a gagné des prix. La publicité, comme vous voyez, elle ne dit pas ce que fait une femme. C'est vraiment pour sa visibilité. On connaît UNICEF, on ne connaît pas une femme. C'était au niveau de la visibilité, donc on existe comme organisation. Et voyez, on est en 2013 et ça, c'est des vrais résultats qu'on. Donc il y a vraiment un problème au niveau, encore des problèmes au niveau de l'égalité entre les sexes. Et c'est important d'avoir une organisation qui va s'en occuper. Béatrice parlait de faire du bruit. Et c'est ça la deuxième étape, la mobilisation sociale. Qu'est-ce qu'elle a fait une femme après ça? Elle a lancé des campagnes de mobilisation sociale. Une de ses grandes campagnes, c'est la campagne He for She, qui n'a pas été traduite, qui est assez particulière pour une organisation qui se veut la voix des femmes, parce que c'est un mouvement de solidarité pour l'égalité entre les sexes, mais ça vise les hommes et les garçons. Et on leur demande de s'impliquer, de défendre l'égalité entre les sexes, de prendre position dans le débat. Et ça a été critiqué, mais ça marche très bien. Ils ont été chercher Emma Watson, des films de Harry Potter. Ça a eu beaucoup de... sur les médias sociaux, ça a très bien marché. Donc ça, c'est une de leurs grosses campagnes et ça continue encore aujourd'hui. Oranger votre quartier, c'est une campagne qui fait partie d'une plus grande campagne du secrétaire général sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et là, on demandait aux gens de porter du orange ou d'illuminer des monuments connus comme les pyramides ici pour attirer l'attention sur le problème de la violence à l'égard des femmes. Ça aussi, ça vient marcher. Et la dernière, c'est Planète 50-50, d'ici 2030. Ça, c'est lié aux objectifs du développement durable, qu'on a parlé ce matin. Et on demandait au gouvernement de vraiment s'engager à adopter des lois, à faire des changements pour obtenir le Planète 50-50. Et vous voyez notre panel, on l'a atteint. Donc ça, c'était une campagne qui était assez courte. Mais encore là, les médias sociaux ont été très importants parce qu'à l'Assemblée générale, au mois de septembre, Bonifam prenait des photos des chefs d'État, des ambassadeurs qui signaient Planète 50-50 et leur nom. Et là, ils mettaient ça sur Twitter. Et voyez, tel pays s'engage. En passant, le Canada n'a pas signé. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte, et ça, c'est Bonifam qui dit, qu'on lit les stratégies médiatiques. Et l'impact de cette stratégie médiatique à l'efficacité de l'organisation. Et ça vient d'un rapport de l'ONU Femmes qui parle de ses progrès. Et il y a une section sur l'efficacité et l'efficience organisationnelle. Et dans cette section, il y a beaucoup de plusieurs paragraphes sur où on discute de la diffusion et de la couverture médiatique de l'ONU Femmes, de l'importance des médias sociaux. On dit que He for She a rejoint plus de 1,2 milliard d'internautes. Et c'est très intéressant parce que si on pense qu'ils essaient d'avoir du financement, comment on montre qu'on est efficace dans des pays où on n'est pas présent? Il n'y a pas de programme de ONU Femmes au Canada, on s'entend. Donc, comment qu'on veut un gouvernement de nous donner de l'argent? Comment qu'on vit on dit aux contribuables, vous voyez, c'est important cette organisation-là, c'est efficace? Bien, c'est une des façons de montrer, c'est ça. Donc, c'est assez intéressant qu'une nouvelle organisation, dans une partie qui parle de son efficacité, vraiment se réfère à toute la couverture médiatique et à l'importance sur les médias sociaux. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a aucune des trois grandes campagnes qui étaient sur les réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne s'est pas impliquée. Déjà en 2013, elle a sorti un rapport sur les camps les femmes et les filles dans les camps de réfugiés en Jordanie. Ils ont trouvé vraiment un haut taux de mariage précoce. Ils ont trouvé aussi que la mobilité des femmes est très limitée dans ces camps-là. Et ça a mené à la création de zones, donc par ONU Femmes, de zones qu'on appelle oasis, qui sont des zones sécures pour les femmes, si vous voulez, où elles peuvent aller recevoir un certain soutien, une aide. Et aussi, ils ont parti un programme qui s'appelle Cash for Work. Donc, on leur donne du travail, ils reçoivent un salaire en retour, et ils estiment qu'il y a plus de 5 000 femmes par mois qui passent par ces zones-là. Quand même assez important. Le problème pour une femme, c'est que oui, elle doit coordonner ses actions avec le HCR, la Grande Agence de réfugiés, et UNICEF. Mais elle est aussi en compétition avec ces agences-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a moins entendu, c'est qu'elle n'a pas fait de campagne, parce qu'elle essaie encore de trouver sa place. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est tournée vers un domaine qui est un de ses domaines de travail, les femmes, la paix et la sécurité. Elle a organisé une réunion des femmes syriennes pour soutenir les efforts de paix en janvier 2014. Et elle a fait beaucoup de bruit autour du 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. La résolution 1325, c'est une résolution qui est très importante parce qu'elle reconnaît le rôle de l'égalité des sexes et le leadership des femmes dans la prévention et le règlement des conflits. Donc, ça s'est passé la semaine dernière, en fait, ils ont sorti un rapport. Et là, ils revoient les 15 années et surtout, ils utilisent des statistiques pour montrer, par exemple, que quand on implique des femmes, il y a une plus grande probabilité que les accords de paix qui ont été signés soient maintenus. Donc, ils sortent des statistiques pour essayer de convaincre et de dire que c'est important l'implication des femmes. Il y a eu un débat au Conseil de sécurité la semaine dernière et ils ont adopté une résolution, une autre résolution, 2242, pour appuyer les efforts de 1325 et encourager les États à impliquer plus de femmes. C'est important parce qu'on parle très peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle très peu des femmes réfugiées. Pourtant, le HCR a dit qu'il y a plus de 50% des réfugiés qui sont des femmes et des filles. Une femme a dit 12% des femmes qui traversent la Méditerranée sont enceintes. Ça crée quand même des problématiques assez importantes. Et je pense que si une femme veut faire des programmes comme elle a fait dans le Transatari ailleurs, il va falloir qu'elle aille chercher du financement. Il va falloir qu'elle convainque, qu'on porte attention à ces problématiques-là. Mais je crois que c'est encore une nouvelle organisation, elle cherche encore sa place. Mais clairement, au niveau de la crise de réfugiés, il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre l'attention sur les problématiques. Ce n'est pas les mêmes menaces que les filles et les femmes réfugiées. Il y a d'autres problèmes qui viennent avec. C'est quand même, il faut quand même s'y attarder parce que la crise n'est pas près de se résorber. Merci.